Radio Octopus. Écho des développements.
Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de la fréquence de la paix, et surtout bienvenue dans Écho du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et de développement durable est diffusé sur Radio Capi. Pourquoi il est important de protéger les tourbières du bassin du Congo? C'est la problématique au centre de ce nouveau numéro d'Écho du développement produit au cours de la deuxième expédition scientifique organisée par Greenpeace dans les tourbières situées dans les territoires d'Ingéné dans la province de l'Équateur. Tati Mapoukou, c'est moi. Jean-Marc Matoki coordonne et supervise ce magazine. Polydor Basunga s'occupe de la prise des sons. Nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute de ces nouveaux numéros produits sur terrain à Luanga, localité située dans les territoires d'Ingéné dans la province de l'Équateur.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Merci de votre fidélité au magazine Écho du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables. Selon les écologistes, la transformation des tourbières à des fins agricoles, pétrolières ou minières aurait des conséquences environnementales très lourdes. La survie de la population dont les activités sont fortement concentrées dans les tourbières sera menacée également. Quels sont les rôles que jouent les tourbières dans l'écologie? Quelles sont les principales caractéristiques des tourbières et pourquoi est-il important de protéger les tourbières du bassin du Congo? Des réponses à toutes ces questions, vous les aurez certainement au cours de ce nouveau numéro des Codes du développement qui débute avec les témoignages de M. Dieu Bissalou, un ayant droit coutumier de la localité de Luango, interviewé lors de l'exploration des tourbières situées dans les territoires d'Ingéné. Muni de sa machette en main pour frayer les passages aux jeunes, la vingtaine révolue nous révèle que c'est dans cette forêt marécageuse que les villageois pratique la pêche et font la cueillette des ressources spontanées qu'offre la nature. La survie de la population locale est étroitement liée aux activités exercées dans ces forêts, dont le sol est gorgé d'eau en toute saison.
Nous pratiquons la pêche à l'aide de filets et des nasses dans cette forêt marécageuse. Nous coupons également dans cette forêt des lianes et des rotins qui servent à la construction des maisons. Nous capturons dans ces zones humides des reptiles, des poissons que nous consommons dans nos ménages et nous vendons également nos produits de la pêche et de la cueillette pour subvenir à nos besoins. En saison sèche, les femmes viennent pratiquer la pêche dans les étangs et en saison de pluie, nous pratiquons toujours la pêche avec des filets et des nasses. Nous savons que cette forêt située dans une zone humide nous aide à avoir de quoi manger et de quoi subvenir à nos besoins en toute saison. Nous protégeons cette forêt léguée par nos ancêtres. Les personnes étrangères ne peuvent venir pratiquer la pêche ou se servir de produits forestiers non ligneux sans l'avis des ayants droit coutumiers.
Nous remercions M. Dieu Bissalou, un ayant droit coutumier de la localité de Luanga, située dans le territoire d'Ingéné à l'Équateur, qui a accepté de témoigner au micro de Radio Capi. Nous osons croire que certains auditeurs et auditrices de la Radio Capi veulent savoir ce que signifie exactement tourbière. Une tourbière, par définition, est une zone humide colonisée par la végétation dont les conditions écologiques particulières ont permis la formation d'un sol sur base de la sédimentation et de la décomposition lente des branches et des feuilles mortes au bout de plusieurs années. Les professeurs Corneille et Ouango, coordonnateurs de l'expédition scientifique des tourbières dans les bassins du Congo, définit la tourbière comme une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa forte teneur en matière organique, pas des composés d'origine végétale.
En termes très simples, la tourbière, c'est un type de végétation qui croît sur un milieu qui est constitué de matières organiques non détruites, donc qui sont incomplètement décomposée. C'est-à-dire que c'est une forêt ou une végétation qui se développe dans un milieu, au lieu d'être du sol, c'est plutôt un amas de matières organiques qui s'entreposent, qui se sont entreposées au fil des millénaires et qui forment cette couche importante de matières organiques qui reste composée de débris de végétaux, donc dont des feuilles partiellement décomposées, des débris des arbres morts, des racines, et tout cet ensemble forme ce que nous appelons la tourbe. Et une forêt ou une végétation qui se développe sur des endroits pareils, sur des substrats pareils, alors c'est ça ce que nous appelons la tourbière.
Et donc, à vous comprendre, la tourbière, c'est l'accumulation, la transformation des espèces végétales, des branches, des bois, dans la boue. Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les caractéristiques, les signes caractéristiques qui déterminent que dans cet endroit, il y a les tourbières?
Merci bien. Et c'est d'abord, quand on est en forêt, on doit être dans un milieu presque en permanence gorgé d'eau. Mmh. Et il doit y avoir une couche importante de matière organique. Et puis, comme on les connaît maintenant, il y a quand même des indicateurs, des essences indicatrices qui montrent que non, ça c'est une forêt de tourbières. Et en particulier, quand on fait un forage rapide, on doit voir que si on prend en main le substrat qui est constitué comme le support de cette végétation est constitué à plus de 65% de matière organique, donc de débris de végétaux qui ne sont pas décomposés. Et elle doit exhaler au moins une mauvaise odeur parce que les tourbières se développent dans un milieu en aérobie, sans oxygène. Et contrairement au site passé, ici nous sommes entre la rivière Rouki et la rivière Boussira. Donc ce que nous voudrions faire un transect qui va relier la rivière Rouki à la rivière Boussira, que nous voudrions arriver au moins au milieu, au point centre de ces deux rivières que nous avons estimé à 15 km. Donc nous devons faire un transect de 15 km et de là prélever des échantillons de zéro, donc de la bordure de la rivière jusqu'à 15 km de distance qui sépare les deux rivières. C'est là parce que nous pensons que la formation de l'accumulation de la tourbe ici se formerait un peu dans un processus qui est différent des autres sites que nous avions explorés. Parce que ici,
parce nous sommes entre deux rivières,
effectivement, monsieur le journaliste. Donc, nous sommes dans un site interfluvial et la tourbe d'ici, au lieu de se former rien que par accumulation, peut-être la première tourbe, donc la couche la plus profonde, serait formée par suite de l'érosion des sols et à la suite des inondations. Et puis petit à petit, il se développe une couche de matière de sol alluvionnaire et qui va commencer à accumuler de la végétation qui se développe et ensuite il y aurait de la tourbe qui s'est accumulée. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et cela, ce processus serait différent des forêts qui sont à l'intérieur, loin, un peu éloignées des grands cours d'eau.
Nous devons savoir que les forêts du bassin du Congo sont soumises à des pressions croissantes qui pourraient à terme entraîner une forte dégradation et accroître la pauvreté de la population très nombreuse qui dépendent encore étroitement des ressources spontanées de la forêt. Guy Kanjemba, membre de la Société Civile Nationale, consultant au groupe du travail et Climat Red Rénové, plateforme de la Société Civile Environnementale, soutient que c'est important de réaliser ce type d'expédition scientifique car l'exploitation des ressources naturelles dans les tourbières peut impacter positivement ou négativement sur les vécu quotidiens des communautés locales.
Ces expéditions sont très, très, très capitales pour la société civile, d'autant plus que il y a des communautés, il y a des populations autochtones et d'autres populations qui vivent dans ces environs et qui, ce genre de travail peut impacter positivement ou négativement sur leur vie. Voilà l'intérêt que nous portons pour voir comment...
Positivement ou négativement, de quelle manière?
Dans tous les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit conserver, que la nature, que le communauté doit conserver, avec lesquelles ils dépendent forcément, c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas intransiger quoi, par rapport à leur culture, par rapport à leur savoir endogène. Et d'une part, et d'autre part, ils doivent aussi bénéficier des efforts consentis pour la protection des forêts, de l'autre part. Là, c'est l'aspect positif. Donc, à un certain moment de cette expédition, il faudrait que nous rassurions que ces communautés se retrouvent de part et d'autre par rapport à leur sécurité sociale d'abord et traditionnelle et par rapport à leur sécurité économique et culturelle.
Nous savons que les tourbières, ce sont des sites riches en biodiversité où la population locale vient souvent prélever les produits forestiers non lignés. Qu'est-ce qui est fait de concret sur terrain pour aider cette population-là à préserver et en même temps se servir des produits forestiers non lignés parce qu'ils dépendent également en grande partie de la collecte de ces produits sur terrain.
Et justement, c'est tout ça la problématique, c'est-à-dire on voudrait se rassurer parce que qu'on ne puisse pas que les communautés ne seront pas acquises après ce genre d'expédition d'être à la base de la déforestation ou du changement climatique. Parce que historiquement, ils font des collectes sélectionnées, ils savent ce dont ils ont besoin dans la forêt, et de manière systématique et de manière à protéger la forêt. Nous aurions voulu que nous nous rassurions aussi avec tout le monde, que tout le monde a cette lecture-là pour exemple de considérer et de prendre, de mettre le peuple autochtone au centre des intérêts de tout ce travail de forêt. Tout doit tourner autour des communautés. Quand on fait des choses parce que le gouvernement ou parce que le ceci, ça pose problème, cela aura difficulté. Quand on voit pas, on ne met pas au centre les gens qui vivent dans ça. Nous sommes un pays forestier, nous ne sommes pas des meilleurs pays forestiers. Ce n'est pas parce que nous sommes nous, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vécu dans ces forêts qu'ils ont préservé. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils deviennent à la fin? Qu'est-ce qu'ils deviennent à la fin? Si on commence à exploiter le pétrole dans un milieu où il y a des communautés comme ça, ça devient quoi? Ça devient quoi? On coupe la forêt, on crée, c'est pas moi, des. On connaît le proverbe forestier, comment il fonctionne. Vous allez au Kassai, vous voyez ce qui se passe là-bas. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui.
Les tourbières du bassin du Congo constituent des milieux riches en biodiversité qui nécessitent une protection intégrale. L'affectation des tourbières aux activités agricoles, à l'exploitation pétrolière ou minière constitue les principales menaces des tourbières du bassin du Congo. Les 145 000 km² des superficies qui regorgent les tourbières du bassin du Congo doivent être protégées selon Patient Mwamba, chargé de la campagne forêt à l'ONG Greenpeace Afrique.
Pour Greenpeace, les tourbières sont d'une importance capitale. Parce que vous êtes sans ignorer que pour les bassins du Congo, le bassin du Congo regorge environ 145 000 km² de tourbières. C'est une superficie très importante. Et d'après les études, c'est environ 30 millions de tonnes de carbone qui sont emmagasinées. Ça veut dire que si ces tourbières sont détruites, la conséquence c'est que toutes ces gaz à effet de serre qui vont être libérés dans l'atmosphère contribueront à augmenter essentiellement les effets du changement climatique. Donc pour nous, le climat est très important et nous devons tout faire pour protéger le climat. Et Greenpeace est là pour effectivement plaider à ce que le tourbière du bassin du Congo soit effectivement protégé, qu'il n'y ait pas des activités qui vont dans le sens de le détruire. Parce que vous êtes sans ignorer que dans notre pays, il y a déjà des régions où le tourbière sont objet de destruction ou de projets de destruction. Vous avez dans le parc national, il y a de projets d'exploration pétrolière qui doivent se faire d'après le gouvernement, et pas seulement en RDC, au Congo-Brazza également, le gouvernement pense qu'ils peuvent faire la même chose. Et pour Greenpeace, c'est inacceptable que le gouvernement, qui sont censés protéger les tourbières, soit le premier personne à penser à leur destruction. Donc pour nous, nous pensons qu'il est très important de le protéger parce que ça va pour l'intérêt de tout le monde. C'est pas seulement l'intérêt de Greenpeace. Si le climat est détruit aujourd'hui, c'est pas seulement Greenpeace qui va subir, c'est toute la planète qui va également subir les conséquences du changement climatique.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à la Radio Okapi, la fréquence de la paix. Vous suivez en ce moment les magazines Éco du développement qui s'intéressent à la deuxième expédition scientifique des tourbières organisée par Greenpeace Afrique dans le territoire d'Ingéné, dans la province de l'Équateur. Les tourbières jouent un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Elles contribuent à la régulation du cycle de l'eau et les tourbières jouent également un rôle socio-culturel important pour les communautés locales dont les activités sont fortement concentrées dans cette forêt marécageuse, ajoutent les professeurs Corneille et Wango. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur de l'expédition scientifique des tourbières dans les bassins du Congo. Suivons les explications de cet expert en écologie.
Nous sommes en train de parler actuellement des changements climatiques. Alors, les tourbières jouent un rôle important dans le sens qu'ils ont pas un rôle, mais ils ont plusieurs rôles. Ils ont un rôle d'approvisionnement, ils ont un rôle de soutien, ils ont un rôle de régulation et un rôle culturel. Donc, un rôle de soutien dans le sens, et d'approvisionnement dans le sens qu'ils constituent des sites, cette tourbe, parce qu'il est constitué de matière organique morte. Alors, dans cette matière, quel est le processus que fait la plante? La plante absorbe le COD et il va rejeter dans l'atmosphère l'oxygène que nous respirons, mais il se nourrit du carbone pour vivre, croître. Et quand la plante meurt, donc dans ces différentes parties, la feuille, les branches, les racines, la tige elle-même, il reste avec elle alors le carbone. Et comme c'est déjà des parties d'organes mortes, alors ils vont être stockés dans le sol. Et ce stockage, cette couche, cette accumulation n'est constituée que des matières mortes qui ont emmagasiné lors de la vie de la plante du carbone. Donc c'est un stock important de carbone qui est dans les tourbières. Et imaginez, sur une étendue de 146 000 km², donc qui n'est constituée en grande partie que de la tourbe, donc cette petite étendue stockerait une grande quantité de carbone qui, une fois il est libéré dans l'atmosphère, aurait un impact dans le réchauffement de climatique. Donc, nous pensons que les tourbières, les forêts de tourbières du Congo jouent un rôle important dans l'atténuation des changements climatiques. Et comme milieu d'approvisionnement aussi, vous voyez que ces milieux restent toujours presque en permanence gorgés d'eau, même pendant des saisons sèches. À quelques centimètres de fouillé, vous trouvez que c'est humide. Donc, ils ont un rôle d'approvisionnement dans le sorte qu'ils jouent, ils approvisionnent aussi nos cours d'eau en eau qui est purifiée par filtration au sol et qui peut se retrouver dans les rivières pour être consommée, pour être utilisée. Et ils jouent un rôle d'approvisionnement aussi en nourriture. Ce sont des milliers, ce sont des frayères. Toutes ces poissons, les silures, communément appelés ngolo, que nous mangeons, qui sont délicieuses, sont pêchées dans ces milieux-là.
Les ngolo, les nzombo, les poissons chats.
Exactement. Ce sont des milliers de reproductions de poissons.
Et certains reptiles.
Certains reptiles, comme le crocodile nain, le loquesse, ils sont Et ils se reproduisent dans ce milieu, vivent, croissent dans ce milieu-là. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des mammifères comme les antilopes, comme le bonobo et le bongo. Et malheureusement, c'est une espèce protégée, mais en dehors des aires protégées, l'espèce est chassée. Donc, ce sont des milliers d'approvisionnements aussi de nourriture, en nourriture. Et ils jouent un rôle culturel dans le sens que ce sont des forêts et il y a des rites qu'on peut faire dans ces milliers. Et dans certains endroits, les gens nous ont dit que non, nous utilisons nos tourbières ou nos forêts, en langue locale, Ntoku, pour faire telle ou telle autre chose. Donc nous, on les lit comme un milieu culturel aussi. Et c'est ce rôle-là de soutien. Et enfin, ça peut, au fil des temps, que ça se transforme pendant des millénaires, alors ça peut former aussi le substrat, devenir le sol. Oui, vous voyez que les tourbières n'ont pas que ce rôle-là seulement par le stockage, mais ils continuent aussi parce qu'il y a la forêt par le haut qui continue encore aussi à absorber du carbone. Et ils jouent donc un rôle double, de stockage et d'absorption de carbone. Alors, ils jouent un rôle très important dans cette époque, ce moment-ci des changements climatiques.
Le changement climatique est devenu l'un des défis environnementaux les plus importants auxquels est confronté notre temps. Dans un contexte où des efforts croissants sont déployés et des initiatives encouragées pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les forêts du bassin du Congo sont soumises à des pressions croissantes qui pourraient à terme affecter le fonctionnement des tourbières et priver en même temps la population locale des ressources issues des forêts marécageuses, affirme le chef des travaux Joseph Kanyama Kabou, chercheur dans le domaine de la botanique forestière.
Une fois qu'on détruit ces écosystèmes, il y aura une libération énorme de CO2 dans l'atmosphère, et ce qui peut entraîner des changements énormes en termes de climat, température, et les conséquences sont toujours dramatiques. On a essayé de comprendre les tsunamis qui sont arrivés en Asie et on ne veut plus revenir à ça. Ça, c'est le premier aspect en termes de changement. Mais d'autre part, on risque de détruire les écosystèmes qui servent de refuge des poissons. Et vous devez savoir que cette population d'ici ne vit que de cette activité. Alors, ce qui veut dire qu'on risque de chasser ces peuples de sa terre à cause des exploitations de ces tourbières. Troisième lieu, ce qu'on peut ajouter, c'est que en le préservant, on peut gagner des prix carbone. C'est-à-dire, tel que nous faisons, nous évaluons la quantité de carbone séquestrée par la forêt, la préservation par la population locale, et ces données, le gouvernement peut s'en servir pour essayer de faire des lobbying et comment obtenir des fonds pour le paiement des services écosystémiques.
Est-ce que les pratiques sociales, la population qui va collecter les aliments, les herbes, les poissons et certaines espèces animales, il n'y a pas une certaine pression qui est exercée localement à première vue?
Ah oui, bon, en tout cas, les pratiques de la population locale sont préservatives, c'est qu'on peut dire. Parce que vous-même, vous constatez la profondeur, la qualité de la forêt. Vous constatez même que c'est comme si personne n'est entré avec cette expédition. Donc, pour frayer ne serait-ce que les chemins, c'est un problème.
Oui, moi, trébucher plusieurs fois donc dans le parcours,
oui.
C'est vraiment difficile, l'accès il est très difficile.
Oui, justement, c'est pour dire que tout ce qu'ils font comme activité, c'est pour la survie, la subsistance. Et l'activité principale, c'est la pêche. Peut-être qu'ils peuvent chercher des bois morts pour faire un peu de feu, faire la marmite le soir, mais ça n'a rien à voir avec la destruction de la forêt. Au contraire, c'est leur pratique, protège, et on voit que depuis les ancêtres, la forêt est toujours là. Vous voyez l'étendue des arbres, vous voyez la hauteur, vous voyez la grosseur. Donc, ça montre qu'ils sont conservateurs, et c'est ce que nous voulons à ce que nous puissions les associer, encore le faire comprendre qu'il faut continuer dans ce sens au lieu de pouvoir passer à des exploitations abusives.
Les forêts du bassin du Congo représentent le second plus grand massif des forêts tropicales au monde après l'Amazonie. Considéré comme le deuxième poumon du monde, les bassins du Congo occupent 26% de la superficie des forêts tropicales de la planète et abritent une biodiversité exceptionnelle. Ces forêts sont essentielles à la survie de l'humanité. Elles génèrent l'oxygène et jouent également un rôle important dans la stabilité climatique. En effet, les forêts du bassin du fleuve Congo interviennent dans la régulation des précipitations locales et régionales en générant 75 à 95% des précipitations dans la région. La plupart des pluies arrosant les continents africains prennent naissance dans les forêts du bassin du Congo. Pour toutes ces raisons, le gouvernement congolais doit faire un effort pour protéger les tourbières du bassin du Congo, considérées comme des niches écologiques et riches en biodiversité. La protection intégrale des tourbières permettra aussi au gouvernement congolais de négocier en position de force dans les discussions internationales de paiement des services écosystémiques, conclut le professeur Corneille Wango. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur de l'expédition scientifique des tourbières dans les bassins du Congo.
Le gouvernement devra faire un effort pour que ces tourbières soient protégées.
Gardées intactes.
Protégées et gardées intactes. Et pour être gardées intactes, donc, ils doivent être gardés totalement humides pour ne pas jouer un rôle de libérer les stocks de carbone qu'ils stockent dans cette importante couche. Nous arrivons à certains endroits, 7 mètres de profondeur constitués entièrement de la tourbe. Alors, ce que nous appelons, nous faisons un appel. L'avantage de les étudier, l'intérêt, ce n'est pas seulement scientifique, mais c'est pour doter notre gouvernement d'une argumentation, enfin, dans les discussions internationales, par exemple maintenant, dans le paiement des services écosystémiques, le gouvernement sera doté d'arguments pour encore revaloriser sa forêt. Qu'il n'y a pas la forêt des bassins du Congo et la forêt congolaise, elle est très importante comme source pour l'atténuation au changement climatique. Donc elle peut négocier pour avoir des revenus afin de développer des activités de développement communautaire en faveur des communautés qui dépendent entièrement de ce type de forêt, de ces habitats, afin qu'ils puissent contribuer à les garder intactes au lieu de les convertir.
C'est donc avec ces deux recommandations du professeur Corneille Wango que nous clôturons votre magazine Éco du développement de ces jours, une émission produite au cours de la deuxième expédition scientifique dans les tourbières du bassin du Congo. Nous saluons la collaboration de l'équipe des experts de cette expédition sur terrain. Merci également aux habitants du campement des pêcheurs MPK qui ont réservé un accueil chaleureux à toute la délégation des experts et journalistes lors de notre séjour à Lohonga, localité située dans le territoire d'Ingéné dans la province de l'Équateur. Tati Mapoukou, c'est votre serviteur qui vous a présenté ces magazines. Jean-Marc Emassoua qui a assuré la coordination et la supervision de cette émission. Polydor Bassonga s'est occupé de la prise des sons. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Éco du développement. À bientôt.